André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité.
T'es le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans l'œuvre de Maurice Leblanc. 9e émission sur Maurice Leblanc, Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Et aujourd'hui, c'est le roman 813 avec notre amie comédienne Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous et pour nous dire des extraits du roman 813. 813, donc, est une œuvre de Maurice Leblanc, publiée en 1910. C'est la 4e publication des aventures du célèbre gentleman cambrioleur par les émissions de Londres. Et c'est probablement le meilleur roman de Leblanc. Cette œuvre comporte deux parties assez distinctes par le ton et l'intrigue, mais qui se suivent et forment un tout. Ce sont la double vie d'Arsène Lupin et les trois crimes d'Arsène Lupin. Quelle mystérieuse entreprise amène à Paris Rudolf Kesselbach, le richissime et ambitieux roi du diamant sud-africain? Que signifie ce nombre 813 inscrit sur le coffret en sa possession? De quel secret le nommé Pierre-le-Duc, qu'il recherche dans les bas-fonds de la capitale, est-il le détenteur? Telles sont quelques-unes des questions à propos desquelles s'affrontent la police et en l'occurrence un certain Lenormand, chef de la sûreté, l'impitoyable baron Altenheim et le gentleman cambrioleur Arsène Lupin, lequel devra également démasquer l'invisible assassin qui cherche à lui faire porter la responsabilité de ses crimes. Et nous voilà entraînés sur les pas de l'orpheline Geneviève, de l'élégant prince Cernine et de bien d'autres personnages dans une avalanche de coups de théâtre et de révélations plus incroyables les unes que les autres. La première partie, La double vie d'Arsène Lupin, commence par une multitude de meurtres dans un hôtel chic parisien. C'est Monsieur Kesselbach qui est assassiné. Et tous les doutes semblent se porter sur Arsène Lupin, qui pourtant ne tue jamais. Mais il faut bien une première fois, comme dirait Ganimard. Le Normand, ancien de Cochinchine, mène l'enquête et ne croit pas à la thèse défendue par le juge d'instruction, celle de la culpabilité de Lupin. Il se lance donc avec ses hommes sur la piste des mystérieux criminels, le tueur au couteau effilé et son complice, le major Parbury, alias le boxeur espagnol Ribera, alias le baron Altenheim. Au passage, les indices se suivent mais ne se ressemblent pas. Étiquette bordée de bleu, portant le chiffre 813, lettre APOON, puis une nouvelle étiquette avec le chiffre 813, homme mystérieux au droit coupé, etc., etc. Un récit compliqué mais bien maîtrisé, où s'entrecroisent Lupin, le Normand, l'affreux LM, le baron Altenheim, mais aussi le prince Cernine. Lupin Cernine est dénoncé à la police par LM, jeté en prison, puis on retrouve la trace de le Normand que l'on croyait noyé, jusqu'au coup de théâtre qui clôt la première partie. Voici un premier extrait. La rencontre avec Kesselbach, par Françoise.
Alors, cette enveloppe, brûlée. Lupin tressaillit de rage. Brûlée ? Mais la cassette, avoue donc. Avoue donc qu'elle est au Crédit Lyonnais. Oui. Et qu'est-ce qu'elle contient ? Les 200 plus beaux diamants de ma collection particulière. Les 200 plus beaux diamants. Mais dis donc, c'est une fortune. Oui, ça te fait sourire. Pour toi, c'est une bagatelle. Et ton secret vaut mieux que ça. Pour toi, oui, mais pour moi. Tu espères bien que l'expédition ratera et qu'on n'ouvrira pas le coffre. Possible, mon vieux. Mais alors, il faudra me payer mon dérangement. Je suis pas venu ici pour voir la tête que tu fais sur un fauteuil. Des diamants, puisque diamants, il y a. Sinon, l'enveloppe de Maroquin. Le dilemme n'est posé. Il consulta sa montre. Une demi-heure, bigre. Le dessin se fait tirer l'oreille. Mais ne ris donc pas, donc, monsieur Kesselbach. Foi d'homme d'homme, je ne rentrerai pas bredouille. Enfin, c'était la sonnerie du téléphone. Lupin s'empara vivement du récepteur et, changeant le timbre de sa voix, imitant les intonations rudes de son prisonnier. « Oui, c'est moi, Rudolf Kesselbach. »« Ah, bien, mademoiselle, mettez-moi en communication. »« C'est toi, Marco ?»« Parfait. Ça s'est bien passé ?»« À la bonne heure. Pas d'accro ?»« Compliment, l'enfant. »« Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé ? La cassette d'ébène ? Pas d'autre chose ? Qu'un papier ? Tiens, tiens. » Et dans la cassette, sont-ils beaux ces diamants? Parfait, parfait. Une minute, Marco, que je réfléchisse. Tout ça, vois-tu, si je te disais mon opinion... Tiens, ne bouge pas, reste à l'appareil. Il se retourna. Monsieur Kesselbach, tu y tiens tes diamants? Oui. Tu me les rachèterais? Peut-être. Combien? 500 000? 500 000, oui. Seulement voilà le hic. Comment se fera l'échange? Un chèque? Non, tu me roulerais. Ou bien je te roulerai. Écoute, après-demain matin, passe au Lyonnais, prends tes 500 billets et va te promener au bois près d'Auteuil. Moi, j'aurai les diamants. Dans un sac, c'est plus commode. La cassette se voit trop. Non, non, la cassette, je veux tout. Ah, Philippin, éclatant de rire. Tu es tombé dans le panneau. Les diamants, tu t'en fiches, ça se remplace. Mais la cassette, tu tiens comme ça à ta peau. Eh bien, tu l'auras, ta cassette. Foi d'Arsène. Tu l'auras demain matin par colis postal. Il reprit le téléphone. Marco, tu as la boîte sous les yeux? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? De l'ébène incrustée d'ivoire. Ouais, je connais ça, style japonais Faubourg Saint-Antoine. Pas de marque? Ah, une petite étiquette ronde bordée de bleu et portant un numéro. Oui, une indication commerciale, aucune importance. Et le dessous de la boîte est-il épais? Bigre, pas de double fond alors. Dis donc, Marco, examine les incrustations d'ivoire sur le dessus. Ou plutôt non, le couvercle. Il exulta de joie. Le couvercle, c'est ça, Marco. Kesselbach a cligné de l'œil. Nous brûlons. Ah, mon vieux Kesselbach, tu ne voyais donc pas que je te guignais, fichu maladroit. Et revenant à Marco. Eh bien, où en es-tu? Une glace à l'intérieur du couvercle? Et est-ce qu'elle glisse? Y a-t-il des rainures, non? Eh bien, qu'à cela! Mais oui, je te dis de la coasser! Cette glace n'a aucune raison d'être. Elle a été rajoutée. Mais imbécile! Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, obéis! Puis s'écria triomphalement. Qu'est-ce que je te disais, monsieur Kesselbach, que la chasse serait bonne? Allô, ça y est? Eh bien? Une lettre, victoire! Tous les diamants du cap et le secret du bonhomme! Il décrocha le second récepteur et reprit. « Lis, Marco, lis doucement, l'enveloppe d'abord. »« Bon, maintenant, répète. » Lui-même répéta. « Copie de la lettre contenue dans la pochette de maroquin noir. » Et après, « Déchire l'enveloppe, Marco. »« Vous permettez, monsieur Kesselbach ?» Ce n'est pas très correct, mais enfin. « Vas-y, Marco, monsieur Kesselbach t'y autorise. »« Ça y est? Eh bien, lis. » Il écouta, puis ricanant. « Fichtre, ce n'est pas aveuglant, voyons, je résume. Une simple feuille de papier pliée en quatre et dont les plis paraissent tout neufs. Bien. En haut et à droite de cette feuille, ces mots, 1m75, petit doigt gauche coupé, etc. Oui, c'est le signalement du sieur Pierre-le-Duc, de l'écriture de Kesselbach, n'est-ce pas? Bien. Et au milieu de la feuille de ce mot en capital, en lettres capitales d'imprimerie, AP2ON. Marco, mon petit, tu vas laisser le papier tranquille. Tu ne toucheras pas à la cassette ni au diamant. Dans 10 minutes, j'en aurai fini avec mon bonhomme. Dans 20 minutes, je te rejoins. Ah, à propos, tu m'as envoyé l'auto? Parfait, à tout à l'heure. Il remit l'appareil en place, passa dans le vestibule, puis dans la chambre, et il revint vers son prisonnier. Il avait une expression résolue, implacable. Fini de rire, Kesselbach. Tu ne parles pas, tant pis pour toi. Es-tu décidé?
À quoi?
Pas de bêtises, dis ce que tu sais. Je ne sais rien. Tu mens. Que signifie ce mot APO2ON? Mais si je savais, je ne l'aurais pas inscrit. Soit, mais à qui, à quoi se rapporte-t-il? Où l'as-tu copié? D'où cela te vient-il? Monsieur Kesselbach ne répondit pas. Lupin reprit, puis une nervée, puis saccadée. Écoute, Kesselbach, je vais te faire une proposition. Si riche, si gros, monsieur, que tu sois, il n'y a pas entre toi et moi tant de différence. Le fils du chaudronnier d'Augsbourg et Arsène Lupin, prince des cambrioleurs, peuvent s'accorder sans honte ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je vole en appartement. Toi, tu voles en bourse. Tout ça, c'est kiff-kiff. Donc, voilà, Kesselba. Associons-nous pour cette affaire. J'ai besoin de toi puisque je l'ignore. Tu as besoin de moi parce que tout seul, tu n'en sortiras pas. Barbareux est un niais. Moi, je suis Lupin. Ça colle ? Lupin insista d'une voix qui tremblait. Réponds, Kesselba, ça colle ? Si oui, en 48 heures, je te le retrouve, ton Pierre Leudric, car il s'agit bien de lui, hein. C'est ça l'affaire. Mais réponds donc, qu'est-ce que c'est que cet individu ? Pourquoi le cherches-tu ? Que sais-tu de lui ? Je veux savoir. Un mot seulement, oui ou non ? Non. Il débouta le gilet de Kesselba, écarta la chemise, découvrant la poitrine et saisissant un stylet d'acier à manche nilée d'or qui se trouvait près de lui sur la table, il en appliqua la pointe à l'endroit où les battements du cœur faisaient palpiter la chair nue. Une dernière fois ! Non. Monsieur Kesselba, il est 3h-8. Si dans 8 minutes vous n'avez pas répondu, vous êtes mort.
Et le baron est retrouvé mort le lendemain avec la carte de visite d'Arsène Lupin. Le Normand commence ses investigations. Arsène Lupin est accusé de 3 meurtres. Voici un deuxième extrait. Le président du conseil, Valenglay, convoque dans son cabinet avec le préfet et le procureur général. Donc il convoque le Normand. Et dit par Françoise.
« Qu'est-ce ceci ? » demanda Valenglay. « Ma décision, monsieur le président. » Valenglay m'en dit « Quoi ? Votre démission ?» Pour une observation bénigne que monsieur le préfet vous adresse et à laquelle il n'attribue d'ailleurs aucune espèce d'importance. N'est-ce pas, de l'homme, aucune espèce d'importance ? Et voilà, que vous prenez la mouche. Vous avouerez, mon bon le Normand, que vous avez un fichu caractère. Allons, rendrez-moi ce chiffon de papier et parlons sérieusement. Valenglay, imposant le silence au préfet qui ne cachait pas son étonnement, prononça. En 2 mots, le Normand, voici la chose. La rentrée en scène de Lupin nous embête. Ah, c'est longtemps, cet animal-là s'est fichu de nous. C'était drôle, je le confesse, et pour ma part, j'étais le premier à en rire. Il s'agit maintenant de crimes. Nous pouvions subir Arsène Lupin tant qu'il amusait la galerie. S'il tue, non. Et alors, monsieur le président, que me demandez-vous ? Ce que nous demandons ? Mais voyons, c'est bien simple. D'abord, son arrestation, ensuite sa tête. Son arrestation, je puis vous la promettre pour un jour ou l'autre. Sa tête, non. Comment ? Si on l'arrête, c'est la cour d'assises, la condamnation inévitable et l'échafaud. Non. Mais et pourquoi non ? Parce que Lupin n'a pas tué. Hein ? Mais vous êtes fou, le Normand. Et les cadavres du palace Hotels, c'est une fable, peut-être ? Il n'y a pas eu triple assassinat ? Oui, mais ce n'est pas Lupin qui l'a commis. Et Valenglay reprit. Je suppose, Normand, que vous n'avancez pas cette hypothèse sans de sérieux motifs. Ce n'est pas une hypothèse. La preuve ? Il en est d'abord deux preuves de nature morale que j'ai sur le champ exposées à monsieur le juge d'instruction et que les journaux ont soulignées. Avant tout, Lupin ne tue pas. Ensuite, pourquoi il aurait tué ? Puisque le but de son expédition, le vol, était accompli et qu'il n'avait rien à craindre d'un adversaire attaché et bâillonné. Soit, mais les faits. Mais les faits ne valent pas contre la raison et la logique. Et puis les faits sont encore pour moi. Que signifierait la présence de Lupin dans la chambre où l'on a trouvé les tuyaux à cigarettes ? D'autre part, les vêtements noirs qu'on a trouvés, et qui étaient évidemment ceux du meurtrier, ne concordent nullement comme taille avec ceux d'Arsène Lupin. Vous le connaissez donc, vous ? Moi, non. Mais Edouard l'a vu, Gourel l'a vu, et celui qui l'ont vu n'est pas celui que la femme de chambre a vu dans l'escalier de service, en traînant Chapman par la main. Alors votre système ? Vous voulez dire la vérité, monsieur le président ? La voici, ou du moins ce que je sais de la vérité. Le mardi 16 avril, un individu, Lupin, a fait irruption dans la chambre de monsieur Kesselba vers 2 heures de l'après-midi. Un éclat de rire interrompit monsieur Lenormand, c'était le préfet de police. « Laissez-moi vous dire, monsieur le Normand, que vous précisez avec une hâte un peu excessive. Il est prouvé qu'à 3 heures, ce jour-là, monsieur Kesselbach est entré au Crédit Lyonnais et qu'il est descendu dans la salle des coffres. Sa signature sur le registre en témoigne. Monsieur le Normand attendit respectueusement que son supérieur eût fini de parler, puis il continua. Vers 2 heures de l'après-midi, Lupin, aidé d'un complice à un nommé Marco, a ligoté M. Kesselbach, l'a dépouillé de tout l'argent liquide qu'il avait sur lui et l'a contraint à révéler le chiffre de son coffre auprès d'Ignonet. Aussitôt, le secret connu, Marco est parti. Il a rejoint un deuxième complice, lequel, profitant d'une certaine ressemblance avec M. Kesselbach, ressemblance d'ailleurs qu'il accentua ce jour-là en portant des habits semblables à ceux de M. Kesselbach et en se munissant de lunettes d'or, entra donc au Crédit Lyonnais, imita la signature de M. Kesselbach, vida le coffre et s'en retourna accompagné de Marco. Celui-ci, aussitôt, téléphona à Lupin. Lupin sûr alors que M. Kesselbach ne l'avait pas trompé, et le but de son expédition étant rempli, s'en alla. Valenglay semblait hésitant.
Oui, admettons. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'un homme comme Lupin ait risqué si gros pour un si piètre bénéfice. Quelques billets de banque et le contenu, toujours hypothétique, d'un coffre-fort.
Lupin convoitait davantage, il voulait ou bien l'enveloppe en maroquin qui se trouvait dans le sac de voyage ou bien la cassette en ébène qui se trouvait dans le coffre-fort. Cette cassette, il l'a eue puisqu'elle l'a renvoyée vide. Donc aujourd'hui, il connaît ou il est en voie de connaître le fameux projet que formait M. Kesselbach et dont il entretenait son secrétaire quelques instants avant sa mort. Quel est ce projet?
Je ne sais pas. Le directeur de l'agence Barbareux, auquel il s'en était ouvert, m'a dit que M. Kesselbach recherchait un individu, un déclassé, paraît-il, nommé Pierre Leduc.
Pour quelle raison cette recherche et par quel lien peut-on la rattacher à son projet?
Je ne saurais vous le dire.
Soit, conclut Valenglay, voilà pour Arsène Lupin. Son rôle est fini, M. Kesselbach est ligoté, dépouillé, mais vivant. Que se passe-t-il jusqu'au moment où on le retrouve mort?
Rien.
Pendant des heures, rien jusqu'à la nuit. Mais au cours de la nuit, quelqu'un est rentré. Par où?
Arsène Lupin, sous l'identité du prince Cernine, fait avancer l'enquête avec l'aide de ses complices. Madame Kesselbach est attaquée par des malandrins et secourue par le prince Cernine. Voici un quatrième extrait, Françoise.
Permettez-moi de vous présenter, le prince Cernine. Elle dit à voix basse, je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance.
En ne l'exprimant pas, madame, c'est le hasard qu'il faut remercier. Le hasard qui a dirigé ma promenade de ce côté. Mais puis-je vous offrir mon bras?
Arrivé à la maison de retraite, je réclamerai de vous un dernier service, monsieur. Ne parlez pas de cette agression.
Cependant, madame, ce serait le seul moyen de savoir.
Mais pour savoir, il faudrait une enquête, et ce serait encore du bruit autour de moi, des interrogatoires, de la fatigue.
Et je suis à bout de force.
Là seulement, il demanda, « Me permettez-vous de prendre de vos nouvelles ?»«
Mais certainement. » Elle embrassa Geneviève et rentra. Cernine ne voulant pas que Geneviève retournât seule, mais il ne s'était pas engagé dans le sentier qu'une silhouette détachée de l'ombre accourut au-devant d'eux.
« Grand-mère !» s'écria Geneviève. Elle se jeta dans les bras d'une vieille femme qui la couvrit de baisers. « Ah, ma chérie, que s'est-il passé? Comme tu es en retard, toi si exact !»
Geneviève présenta. « Madame Ernemont, ma grand-mère, le prince Cernine. »
Le prince Paul Cernine, dont l'anagramme du nom est Arsène Lupin, a reconnu Geneviève et Victoire, sa vieille nourrice à qui l'avait confiée. Plus tard, il sauve le poète Gérard du suicide et lui offre de reprendre la vie de Pierre Leduc. Le Normand poursuit son enquête et avant de mourir, le comte à Altenheim révèle que celui-ci ne fait qu'un avec Arsène Lupin. Celui-ci confirme. À la fin de cette première partie, Lupin est arrêté par l'inspecteur Weber, sous-chef de la sûreté. À 7h du soir, le prince Paul Cernine, alias Arsène Lupin, franchissait le seuil de la cellule 14, deuxième division. Dans la deuxième partie, les trois crimes d'Arsène Lupin, Lupin est en prison donc, et la police est félicitée, soit. Mais quelque chose cependant domine ce merveilleux concert d'éloges. Cette allégresse bruyante, c'est un rire fou, énorme, spontané, inextinguible et tumultueux. Arsène Lupin, depuis 4 ans, était le chef de la sûreté. Et quel service avait-il rendu? jamais l'ordre avait été moins troublé, jamais le crime découvert plus sûrement et plus rapidement. Un jour, un personnage mystérieux lui rend visite dans sa cellule. C'est le Kaiser, l'empereur d'Allemagne. Des papiers compromettants se rapportant à un incroyable projet d'accord secret entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne sont dissimulés dans un château. En effet, 20 ans avant les faits, les dirigeants des trois pays avaient envisagé un accord tripartite par lequel l'Allemagne recevait un grand empire colonial en échange d'une modération de ses ambitions navales pour satisfaire l'Angleterre et de la restitution de l'Alsace et de la Lorraine à la France. Cet accord ne l'était pas, au fait, mais il pourrait être très embarrassant pour le Kaiser s'il venait à être révélé au grand public. C'est un peu comme la politique étrangère des États-Unis et Wikileaks. Lupin, donc, se rendra au château et découvrira la cachette secrète et pour cela résoudra l'énigme du chiffre 813. Voici un premier extrait de cette deuxième partie. Lupin empoisonné chez l'empereur pour découvrir l'énigme. Françoise.
L'empereur ne cachait pas son angoisse. Cet aventurier bizarre qui s'appelait Arsène Lupin et dont il connaissait la vie prodigieuse, cet homme le troublait. Et quoique résolu à en finir avec toute cette histoire équivoque, il ne pouvait s'empêcher d'attendre et d'espérer. Encore 2 minutes, encore 1 minute, et puis ce fut en par seconde que l'on compta. Lupin paraissait endormi. « Allons, prépare-toi, » dit l'empereur au comte. Celui-ci s'avança vers Lupin, lui mit la main sur l'épaule, la sonnerie argentine du chronomètre vibra. 1, 2, 3, 4, 5. « Valdemar, tire les poids de la vieille horloge !» Un moment de stupeur. C'était Lupin qui avait parlé, très calme. Valdemar haussa les épaules, indigné du tutoiement. « Obéis, Valdemar, » dit l'empereur. « Mais oui, obéis, mon cher comte, » insista Lupin qui retrouvait son ironie. « C'est dans tes cordes et tu n'as qu'à tirer sur celle de l'horloge. » Alternativement. 1, 2. À merveille. Voilà comment ça se remontait dans l'ancien temps. De fait, le balancier fut mis en train et l'on perçut le tic-tac régulier. Les aiguilles, maintenant, dit Lupin. Mets-les un peu avant midi. Ne bouge plus. Laisse-moi faire. Il se leva et s'avança vers le cadran, à un pas de distance tout au plus, les yeux fixes, tout son être attentif. Les 12 coups retentirent. 12 coups lourds, profonds. Un long silence. Rien ne se produisit. Pourtant, l'empereur attendait comme s'il était certain que quelque chose allait se produire. Et Lupin, qui s'était penché sur le cadran, se redressa et murmura. « C'est parfait. J'y suis. » Il retourna vers la chaise et commanda. « Valdemar, remets les aiguilles à midi. Moins 2 minutes. »« Ah non, mon vieux, par brousse-poil, dans le sens de la marche. » « Eh oui, ce sera un peu plus long, mais que veux-tu ?»« Écoute, Valdemar, » dit Lupin. « Écoute, Valdemar, tu vois sur le cadran une petite pointe arrondie qui marque la première heure ? Cette pointe branle, n'est-ce pas ? Pose dessus l'index de la main gauche et appuie. Bien. Fais de même avec ton pouce sur la pointe qui marque la troisième heure. Bien. Avec ta main droite, enfonce la pointe de la 8e heure. Bien. Te remercie. Va t'asseoir, mon cher Valdemar. » Un instant, puis la grande aiguille se déplaça, effleura la 12e pointe, et midi sonna de nouveau. Au 12e coup, il y eut un bruit de déclenchement. L'horloge s'arrêta net. Le balancier s'immobilisa. Et soudain, le motif de bronze qui dominait le cadran et qui figurait une tête de bélier s'abattit, découvrant une sorte de petite niche taillée en pleine pierre. Dans cette niche, il y avait une cassette d'argent ornée de ciselures. Oh ! Fit l'empereur, vous aviez raison. Vous en doutiez, sire, dit Lupin. Il prit la cassette, la lui présenta. Que sa majesté veuille bien l'ouvrir elle-même. Les lettres qu'elle m'a données, mission de chercher, sont là. L'empereur souleva le couvercle et parut très étonné. La cassette était vide.
Entre-temps, Lupin devra découvrir la cachette impossible où Altenheim tient informé le vieux Steinweg, qui, en ces trop longs, sur les papiers. Il échafaudera le projet de redessiner la carte de l'Europe grâce à une alliance entre un faux Pierre-le-Duc et sa Geneviève, qui est en réalité sa fille. On comprend que Sholmès soit mentionné à plusieurs reprises, mais jamais présent. Il y a de quoi devenir fou. Au final, Lupin mettra la main sur les documents les restituera au Kaiser sans que cette affaire lui rapporte quoi que ce soit. Voici un deuxième extrait, Françoise.
À midi, il entrait au restaurant Buffalo, dans une petite salle basse où des maçons et des cochers venaient consommer le plat du jour. Quelqu'un va s'asseoir auprès de lui. « C'est fait, patron. »« Ah, c'est toi, Doudeville. Tant mieux. J'ai hâte de savoir. Tu as les renseignements, l'acte de naissance ? Vite, raconte. » »« Eh bien voilà, le père et la mère d'Altenheim sont morts à l'étranger. Passons. Il laisse trois enfants. »« Trois ? » ?»« Il s'appelait Raoul de Malreg. » »« C'est notre homme, Altenheim. Et après ?» Le plus jeune enfant était une fille, Isilda. Le registre porte à l'encre fraîche la mention « décédée ». Isilda. Isilda, redit Lupin. C'est bien ce que je pensais. Isilda était la sœur d'Altenheim. Elle a bien vu en elle une expression de physionomie que je connaissais. Voilà le lien qui les rattachait. Mais l'autre, le troisième enfant, ou plutôt le second, le cadet, un fils. Il aurait actuellement 26 ans. Son nom ? Louis de Malreg. Lupin eut un petit choc. Ça y est, Louis de Malreg, les initiales LM, l'affreuse et terrifiante signature, l'assassin se nomme Louis de Malreg. C'était le frère d'Atelman et le frère d'Isilda. Il a tué l'un et il a tué l'autre par crainte de leur révélation. Lupin demeura longtemps taciturne sombre avec l'obsession sans doute de l'être mystérieux. Doudeville objecta. Mais que pouvait-il craindre de sa sœur Isilda ? Elle était folle, m'a-t-on dit. Folle, oui, mais capable de se rappeler certains détails de son enfance. Elle aura reconnu le frère avec lequel elle avait été élevée, et ce souvenir lui a coûté la vie. Il ajouta, folle, mais tous ces gens sont fous. La mère folle, le père alcoolique, Altenheim, une véritable brute. Isilda, une pauvre démente, et quant à l'autre, l'assassin, c'est le monstre, le maniaque imbécile. Imbécile ? Vous trouvez, patron ? Mais oui, imbécile, avec des éclairs de génie, avec des ruses et des intuitions de démon, mais un détraqué, un fou comme toute cette famille de Malreg. Il n'y a que les fous qui tuent, et surtout des fous comme celui-là, qu'enfin... Il s'interrompit, et son visage se contracta si profondément que Doudeville en fut frappé. Mais qu'y a-t-il, patron ? Regarde, Lupin serait-il en face de l'assassin ?
Merci, Françoise, pour vos lectures. La prochaine émission, nous parlerons du théâtre de Maurice Leblanc. Notre émission est maintenant terminée et voici la citation du jour. Arsène Lupin est un cambrioleur délicat. Le sang lui répugne. Il n'a jamais commis d'autre crime que de s'approprier le bien d'autrui. Une peccadille, quoi. Elle est de Maurice Leblanc, dans 813. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com. Et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.